الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، bienvenue à vous, chers frères, dans ces quelques assises que nous avons mis en place afin d'étudier un écrit traitant du sujet du blâme, de la dureté du cœur, et dont l'auteur est l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Pourquoi étudier ce sujet et quelle est son importance? Le cœur est la base. Le cœur est le moteur. C'est lui qui te conduit à prononcer des paroles, à œuvrer pour faire des actions ou pour délaisser d'autres choses. C'est lui qui te pousse dans tes choix. C'est lui qui te pousse dans ton mode de vie. Tout ça commence par le cœur. Le cœur est la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le récit du compagnon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu: Ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. N'est-ce pas que dans le corps il y a un morceau de chair qui, quand il est pieux, bon, le corps l'est aussi. Et quand il est mauvais, le corps l'est aussi. Et n'est-ce pas que ce morceau de chair est le cœur? Ce hadith-là nous montre que le cœur est la base. C'est en fonction de sa pureté ou de sa souillure que la personne va faire des bonnes actions ou des mauvaises actions. C'est donc sur lui qu'il faut particulièrement se concentrer. C'est indispensable. Tout ce qui vient par la suite ne fait que suivre le cœur. Nous ne pouvons pas connaître le contenu des cœurs des gens. Par contre, nous constatons leurs actes auxquels nous pouvons assister. Ces actes sont indicateurs du contenu du cœur. Pour être encore plus clair, tes actes sont indicateurs du contenu de ton cœur. Si tu veux savoir comment est ton cœur, observe tes paroles, observe tes actions, observe tes faits et gestes, observe tes choix. Tu te rendras compte de l'état de ton cœur. Le cœur est donc la base. C'est pourquoi il est indispensable d'accorder à la surveillance du cœur, au contrôle du cœur, à la réforme du cœur, la plus grande importance possible. Car au final, cela va nous mener à l'une des deux destinations, le paradis ou l'enfer, qu'Allah nous accorde le paradis et nous préserve de l'enfer. Il est donc impératif d'étudier la question du cœur, bien plus que tu n'étudierais la question des actions. C'est bien d'apprendre les règles de la jurisprudence, te permettant de savoir comment prier, comment rattraper ta prière, comment réparer une erreur. Mais si le cœur n'y est pas, si le cœur est ailleurs, si le cœur est rempli d'autres choses qu'Allahu Azza wa Jal, alors cela ne te sera pas grandement utile. C'est bien d'apprendre à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si lorsque tu invoques Allah, ton cœur est absent, ton cœur est distrait, inattentif, alors sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِدُعَاءٍ أَوْ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِنٍ. Allah ne répond pas à l'invocation émanant d'un cœur distrait, insouciant. Voyez l'importance du cœur. Très souvent, on va se concentrer sur des mots à apprendre par cœur. Mais est-ce que le cœur y est? Pareil pour la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il est possible que l'un d'entre les gens accomplisse une prière pour en avoir au final de récompense que la moitié, que un dixième, un neuvième, un huitième, un septième, un sixième, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le cœur n'y est pas. Le cœur, c'est lui qui va te pousser au bon comportement. C'est lui qui va te pousser à choisir tes propos que tu tiens. C'est lui qui va te pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous parlons par exemple de la hijra, de l'émigration, pour aller s'installer en terre d'islam. C'est une adoration immense qu'Allah azza wa jal permette à tous de la mettre en pratique. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre intitulé Ar-Risalatu Tabukiyya, la lettre de Tabouk, c'est une lettre écrite par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il était de retour du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Il est passé par Tabouk, la ville connue en Arabie, où il s'est arrêté, il a fait halte pour se reposer, et il en a profité pour écrire cette lettre et l'envoyer à des amis à lui situés au Cham, vers la région de la Syrie. C'est pourquoi elle a été appelée la lettre de Tabouk. Dans cette lettre-là, il ne fait que parler du cœur. Et il parle de l'émigration vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va jusqu'à dire que il trouve qu'il est très étonnant que la plupart des gens, quand ils parlent au sujet de l'émigration, ne parlent que de celle qui consiste à déplacer son corps d'un pays vers un autre, d'un endroit vers un autre. Et ces règles sont connues, dit-il, alors que la base, c'est de parler de l'émigration du cœur qui consiste à déplacer ton cœur de l'attachement à tout autre qu'Allah Azza wa Jal et de l'amener vers l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah dit: que dites-vous d'un cœur qui a quitté tout autre qu'Allah et qui a voyagé pour arriver à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans son attachement, dans son lien étroit avec Allah, dans sa crainte, dans son amour, dans sa dévotion pour Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que le corps va faire par la suite? Le corps va quitter. Le corps va aller s'installer là où, dans un endroit où l'adoration sera pour lui propice. C'est pour ça que, dans le jeûne, qu'est-ce que a dit le Cheikh Mohammed ibn Salih ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala? Il dit: si vous m'interrogez sur la définition du jeûne, vous allez peut-être vous étonner si je vous dis que le jeûne ne consiste pas à s'abstenir de manger, boire et avoir des rapports avec l'épouse. Mais plutôt le jeûne, c'est le jeûne du cœur qui consiste, puis il détaille et il explique, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, au fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Pareil dans n'importe quelle autre adoration, le pèlerinage à la Mecque. C'est le cœur qui fait le pèlerinage. Le dhikr, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Les savants disent que, on va le voir après dans un chapitre de ce livre, Inch'Allah, que le dhikr se divise en trois catégories. Dhikrul qalb, dhikrul lisan, dhikrul jawarih. Le dhikr fait par le cœur, le dhikr fait par la langue, le dhikr fait par les membres. Ils disent que lorsque tu fais du dhikr avec ta langue, le meilleur c'est le dhikr qui est accompagné par le cœur. Et ils vont même après diverger sur un sujet qui est: est-ce qu'il faut d'abord avoir fait le dhikr du cœur et le faire suivre de la langue, c'est-à-dire d'abord développer dans ton cœur la vénération pour Allah Azza wa Jal, la méditation sur ses noms et attributs, sur sa grandeur, sa beauté, sa puissance, ce qui va faire découler que ta langue va faire du dhikr, ou alors il faut faire du dhikr avec ta langue et ça va tirer le cœur à vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. On verra ça, cette question-là, inshallah ta'ala, au moment venu. Tout ça pour vous dire l'importance du cœur. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit Al-qalbu huwa al-asl. Le cœur est la base. Comme a dit Abu Huraira, comme a dit le compagnon Abu Huraira, radiyallahu an, Al-qalbu malikul a'da. Le cœur est le roi des membres. Wal-a'da'u junuduhu. Et les membres en sont les soldats. Fa'idha taba al-maliku, tabat junuduhu. Si le roi est bon, ses soldats seront bons. وَإِذَا خَبُثَ خَبُثَتْ جُنُودُهُ. Et si le roi est mauvais, ses soldats seront mauvais également. Ainsi l'on voit l'importance de la place du cœur. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah va même jusqu'à dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à son serviteur, tout ce qu'Allah t'a rendu obligatoire, en fait, il l'a rendu obligatoire à ton cœur. Allah t'a rendu obligatoire la prière, le jeûne, le pèlerinage, le fait de t'acquitter de l'aumône annuelle et toutes les autres prescriptions religieuses. En premier lieu, c'est de ton cœur dont il s'agit. C'est lui qui est visé par l'obligation de prier, de jeûner, de faire le pèlerinage, d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui reçoit ses obligations et qui doit les développer au point de pousser les membres à les appliquer. La révélation du Coran. Sur quoi est-ce que le Coran a été révélé? S'adressant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innahu latanzilu rabbil alamin. Et il est certes une révélation descendant du Seigneur des mondes. Nazala bihi ar-ruhul amin, par laquelle l'esprit digne de confiance, c'est-à-dire l'ange Jibril alayhi salam, est descendu. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Sur ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. En langue arabe éloquente. Encore une fois, on voit qu'il s'agit du cœur. Le Coran a été révélé sur le cœur. Je vous laisse un instant vous imaginer quelle était la situation des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, vivant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assistant à la révélation d'Allah, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois presque s'évanouir, comme s'il allait mourir, parce qu'il était en train de recevoir la révélation. Il allait même parfois tomber sur la cuisse d'un compagnon. Il devenait tellement lourd que le compagnon pensait qu'il allait perdre sa jambe. Qu'est-ce qui a fait ça, si ce n'est la lourdeur du Coran descendu sur le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. » Nous allons te donner une parole lourde. Le cœur, c'est lui qui est concerné. Le cœur doit être présent. Lorsque les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient dans des assises, en compagnie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ils étaient pleins de quiétude, de sérénité, comme cela, tellement concentrés que l'un d'entre eux disait, les oiseaux pouvaient venir se poser sur nos têtes. On pensait d'eux qu'ils étaient en bois, ils ne bougeaient plus. Pourquoi ? parce que leur cœur était rempli de vénération pour Allah Azza wa Jal, à en oublier tout ce qui pourrait se passer autour. Il y a plein de salafs qui étaient connus dans leur salat, dans leur prière. Le plafond s'effondrait, ils ne le savaient même pas, parce qu'il était en prière. Puis quand il terminait sa prière, il voyait tout le monde courir. Qu'est-ce qui se passe? Le plafond s'est effondré. Je n'en sais rien. Il était dans sa prière. Le cœur était là. Aujourd'hui, quand tu pries, quelqu'un murmure à côté de toi, ça suffit pour te perturber et pour te faire oublier ce que tu récites. Pourquoi? Va chercher dans le cœur. Allons chercher dans le cœur. Car celui qui vous parle est le premier concerné par ses propos. Le cœur doit être pur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Le cœur est comme un récipient, servant à contenir. Il a été créé à la base pour contenir la foi en Allah Azza wa Jal, le rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala. » Il dit cela dans l'introduction de son livre « Tariqul Hijratayn wa Babu Sa'adatayn » La porte vers les deux émigrations et la voie vers les deux bonheurs. La voie vers les deux émigrations et la porte vers les deux bonheurs. Il dit que le cœur est comme un récipient créé pour contenir un lien avec Allah avant tout, subhanahu wa ta'ala. Mais son possesseur a le choix d'y remplir ce qu'il veut. Les attachements à la dunya, les attachements aux passions, les attachements à toutes ces choses-là. Il dit, et dès lors que le cœur est rempli, il ne peut plus contenir autre chose que ce qu'il contient en son sein, à l'image d'un récipient qui est vide. Vous pouvez y verser n'importe quel liquide. Si vous le remplissez d'eau, il n'y restera plus de place pour y mettre du jus de fruits, de l'essence, un produit chimique, une boisson bonne pour la santé. C'est à vous de choisir ce que vous allez mettre dans votre récipient. Cette comparaison est très bénéfique. Parce que parmi les liquides, il y en a qui sont nocifs. Si jamais tu venais à le déverser, il détruirait tout ce qui l'atteindra. Parmi les liquides, il y en a qui sont destructeurs. Le récipient lui-même se fait détruire par le liquide, n'est-ce pas? Produit chimique. Ton cœur, en fonction de ce que tu vas mettre dedans, sera sain ou perverti, voire même détruit, voire même jusqu'à la mort. En fonction du lien que tu vas mettre dans ce cœur avec Allah ou non, subhanahu wa ta'ala. Et dès lors que le cœur se voit privé de lien avec Allah parce qu'il est bien trop rempli par les attachements à autre qu'Allah ou Azza wa Jal, alors la lumière ne peut y entrer. Et ce n'est plus que le cœur qui sera perverti, mais c'est la vie même de la personne qui le sera. Un des salafs a dit « Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah 'azza wa jalla. » Il est interdit à un cœur que la lumière y entre alors qu'il y a en son sein quelque chose qu'Allah déteste. Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Les salafs, les pieux prédécesseurs sont nos exemples. Ils savaient que le cœur était ce sur quoi Allah portait son regard, subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. » Allah ne regarde pas vos corps, non plus vos apparences physiques, mais il regarde vos cœurs. Et dans une variante aussi authentique de ce récit, il a qulubikum wa a'malikum. Il regarde vos cœurs et vos actes. Qu'est-ce qu'il a fait passer en premier? Les cœurs. Pourquoi? Parce que le cœur est la base. Il regarde ton cœur. Vous êtes assis devant ce pauvre miskin qui vous parle et peut-être que vous allez vous dire « Masha'Allah » et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes capable de savoir au moment où il vous parle s'il est vraiment sincère pour Allah Azza wa Jal? Si en vérité il ne fait pas les choses pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, s'il ne craint pas de se faire punir par Allah Azza wa Jal parce qu'il montre une apparence contraire au fort intérieur, ça vous ne pouvez pas le savoir. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma ihfaz qulubana. Le cœur, c'est ce qu'Allah regarde, subhanahu wa ta'ala. Allah ne regarde pas vos corps, ni vos aspects physiques et vos apparences. Ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qu'il regarde, c'est le fort intérieur, ce qu'il y a à ce moment-là où tu parles, où tu écoutes. Il observe le fort intérieur et le contenu de ton cœur. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu as allumé le lien pour écouter ce direct? Qu'est-ce que tu cherches? Passer le temps? On jeûne? On veut passer le temps en attendant l'arrivée du coucher du soleil? Ou alors, on cherche à nourrir son cœur, entretenir son lien avec le Créateur? Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'Allah regarde. Puis, il regarde tes actes qui, forcément, vont découler du contenu de ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans le récit rapporté par l'imam muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, trois fois de suite. La piété se trouve ici. La piété se trouve ici. La piété se trouve ici. En montrant sa poitrine. De quoi est-ce qu'il parle si ce n'est le cœur? Sallallahu alayhi wa sallam. Si le cœur se tient droit, alors le corps le sera aussi. L'imam Ahmad rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh » La foi du serviteur ne pourra être correcte, juste et droite que quand son cœur le sera. Si tu veux avoir une bonne foi, une bonne aqida, un bon lien avec Allah Azza wa Jal, et donc tout ce qui en découlera comme bonnes actions, parce que la foi, c'est un ensemble de convictions dans le cœur, de paroles et de bonnes actions. Tout commence d'abord par les convictions qui vont pousser aux paroles et aux actions. Si tu veux que tout cela soit droit, il faut au préalable aller chercher dans ton cœur. Ce genre d'assise, cher frère, prenez le conseil de votre petit frère. Ce genre d'assise, pourquoi est-ce qu'on vient y assister? Pour faire acte de présence? Pour dire qu'on a été à un dars? Combien de dars on a été peut-être? Et qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce qu'on a mis en pratique? Chaque pas que tu fais, tu le fais, tu dois le faire à la recherche de la survie et la vie de ton cœur. C'est ça que tu viens chercher. C'est ça qui va faire que tu vas bien te comporter dans l'assise et que tu ne vas pas adopter de mauvais caractères, te couper les ongles, te ronger les ongles, jouer avec ton téléphone, alors que ici, dans les assises comme celle-ci, ce sont des versets qui sont traités et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, dans un de ses dars, on l'entend dire à son élève, arrête de trifouiller ta barbe. L'élève, forcément, doit enlever sa main. Il continue son dars. Puis il lui dit, arrête de trifouiller ta barbe. Et il continue. Puis il lui dit, est-ce que tu es là? Tu es avec nous? Écoutez bien, l'éducation du alim, du savant. Hal anta ma'ana? Il lui dit, oui, ana ma'akum, je suis avec vous. Il lui dit, anta mawjoudun jisman la qalban. Tu es présent physiquement, pas par ton cœur. Vous voyez l'importance du cœur? Le cœur est là dans tout. Ya ikhwa, comprenez ça, barakallahu fikum, dans votre religion. Le cœur, c'est la base de tout, c'est lui que vous devez contrôler. Il ne s'agit pas de parler beaucoup. J'ai appris telle chose, j'ai été tant de fois à tel endroit, je connais tel cheikh, tel savant, tel étudiant, et parler. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a des réalités de tout ça au fond de ton cœur? Est-ce que ça s'est traduit par ton mode de vie? Est-ce qu'on voit de toi la piété? Est-ce que vous savez que certains salafs disaient « Un tel, quand je le vois, je pense à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Un tel, quand je le vois, je pense à l'akhira. Je pense à l'au-delà. » On voyait la crainte d'Allah dans sa démarche. On voyait la crainte d'Allah dans son visage. Il surveillait leur façon de parler, leur façon de plaisanter. Il surveillait leur façon de se comporter. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, on va vous parler de lui dans un instant, Inch'Allah ta'ala, puisque c'est son écrit qui va faire l'objet de notre étude, était un homme si pieux et vertueux, si connaisseur de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il était un jour dans une assise, et je l'ai écouté, du Shir Salih al-Shir, hafidhahullah. Il était dans une assise avec ses élèves en train de traiter une question religieuse, subtile, précise. Il l'a traitée avec une habileté sans pareil, avec une maîtrise inégalé, au point d'étonner tous ses élèves présents dans l'assise. Plus tard, lui et ses élèves vont se retrouver dans une autre assise, en compagnie de plusieurs savants. Et il s'avère qu'ils vont traiter cette question-là et ce sujet-là. Ibn Rajab observe le silence. Tous les autres prennent la parole, chacun donne la connaissance qu'il a dans la question. Les élèves constatent qu'aucun n'a réussi à traiter le sujet comme leur cheikh, l'imam Ibn Rajab. Ils le regardent et ils attendent. Il se tait, il ne parle pas. L'assise se clôture. Les gens s'en vont. Les élèves vont voir Ibn Rajab. Ils lui disent, on sait très bien que tu maîtrises la question mieux qu'eux. Pourquoi tu n'as pas parlé? Il a dit, quand j'ai traité ce sujet avec vous, c'était une assise où on voulait Allah, le visage d'Allah. Cette assise-là, on ne voulait pas le visage d'Allah. Je n'ai pas à parler dans cette assise. Cette assise-là, on voulait plaire aux autres, on voulait montrer ce qu'on connaît. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y avait des salafs qui avaient de la science, et quand ils se faisaient conseiller par quelqu'un qui était en dessous d'eux dans le savoir, ils faisaient comme s'ils n'avaient jamais entendu ça. Aujourd'hui, tu vas dire, c'est bon, je sais, je connais le verset, je connais le hadith, j'ai entendu ça. C'est connu, moi j'ai été à la Umrah, j'ai assisté à Cheikh Intel, c'est bon, je connais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, ils ne faisaient pas ça. Ils écoutaient. Ah d'accord, ah subhanallah, jazakallahu khayran pour le conseil. Comme s'ils l'avaient écouté pour la première fois. Pourquoi? Parce que le rappel pour eux, c'est comparé à une goutte d'eau en plus qui tombe du ciel, qui ne peut au final qu'abreuver la terre. Une goutte d'eau en plus, ça ne peut que faire du bien à cette terre qui va faire pousser des fruits. C'est comme ça qu'ils voyaient leur cœur. Et c'est comme ça que tu dois voir ton cœur. Et c'est ça que tu dois chercher. Et là-bas que tu dois fouiller. Faites attention à vous concentrer que sur les apparences. Faites attention à ça. Car là-bas, c'est le cœur. C'est bien beau que les gens pensent du bien de toi. Mais Allah connaît ta réalité. Quand tu te regardes seul dans le miroir, tu connais tes fautes, tes défaillances, tes péchés. C'est ça que tu aurais dû corriger avant de corriger l'apparent. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dit, nous ne sommes que dans l'introduction, mais elle est très importante pour rentrer dans le vif du sujet, pour comprendre pourquoi on étudie un écrit portant sur le blâme de la dureté du cœur. Il faut comprendre quelle est l'importance de la question du cœur. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dit, je cite, « Et ce qui est voulu par la droiture de la foi, c'est la droiture des actions des membres. Et les actions faites par les membres, ta prière, ton jeûne, l'aumône, le pèlerinage, et ainsi de suite. Les actions faites par les membres ne peuvent être correctes, justes, droites, que par la droiture du cœur au préalable. Et ce qui est voulu par la droiture du cœur, nous dit l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, je vous pose une question d'ailleurs. Qu'est-ce qui est voulu par la droiture du cœur? N'hésitez pas à répondre, on a le droit de se tromper. Qui répond? Allez-y, répondez. Naam? L'ikhlas, la sincérité, qu'est-ce que vous rajoutez d'autre? Amin. La sincérité et le suivi, c'est plus physique. Yanis? Siri? At-taqwa, la piété. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dit « An yakuna mumtali'an min mahabbatillah » que le cœur soit rempli, qu'il déborde d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa mahabbati ta'atihi » d'amour pour son obéissance. « Wa karahati ma'asiyatihi » et d'aversion pour sa désobéissance. C'est ça la droiture du cœur. Tu veux savoir si ton cœur est droit? Regarde combien il aime Allah. Combien il aime obéir à Allah et combien il déteste désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand salaf que vous connaissez, il a été éduqué par des compagnons, radiyallahu anhum, a dit à un homme, « Dawi qalbak, soigne ton cœur, fa inna hajat Allahi ila al-ibadi » صَلَاحُ قُلُوبِهِمْ car les attentes d'Allah ou l'attente d'Allah envers ses serviteurs c'est la droiture de leur cœur. Soigne ton cœur. Les salafs, ils accordaient tellement d'importance, ils avaient tellement peur pour leur cœur, subhanallah, qu'ils allaient même jusqu'à s'isoler des gens et même jusqu'à écrire des livres, Kitab al-Uzla, le livre de l'isolement. Et quand je parle de l'isolement, je ne parle pas de l'isolement avec la méthodologie soufie, consistant à aller dans une cave ou je ne sais quoi, se retenir tout seul et répéter Allah, 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 en disant je m'isole et je ne pense qu'à Allah. Non. Al-uzla, kullu shay'in ala sunnah. L'isolement conforme à la sunnah du prophète, alayhi salatu wa salam. S'ils craignaient d'être influencés négativement, alors ils décidaient de s'isoler des assises. On va en parler de ça dans un chapitre qui va venir, Inch'Allah Ta'ala. On voit donc que la droiture dépend de la droiture du cœur. C'est vraiment la base de tout, mes frères. Et ce cœur-là, justement, il y a des souillures, des maladies, des maux qui viennent s'infiltrer discrètement. Écoute bien ce que je te dis. Discrètement, au sein des cœurs. Elles viennent les affaiblir doucement, sans que son possesseur ne s'en rende forcément compte au début. À l'image d'un voleur aux aguets attendant que le propriétaire du bien qu'il convoitise soit distrait par autre chose, absent de l'endroit où il a déposé son bien si cher pour arriver et s'emparer de ce trésor-là. C'est une image qui a été faite par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre « Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib » la verse abondante de bonnes paroles, dans le chapitre où il dit « Les cœurs sont de trois catégories. » Il y a le cœur qui est parfaitement vivant. c'est le cœur du croyant, muwahhid, qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est rempli d'amour, d'obéissance à Allah azza wa jal. Il y a le cœur mort, c'est le cœur du kafir billahi azza wa jal, ne croyant ni en Allah ni au jour dernier. Et entre les deux, il y a le cœur malade. Il a de la foi mêlée à de la souillure. Il a des bonnes actions mêlées à des péchés. Tantôt sa foi augmente, tantôt elle diminue. Tantôt il fait des bonnes actions, tantôt il s'éloigne et il s'égare. Ce cœur-là, il est comme un bien qui est possédé par quelqu'un, yarhamukallah, possédé par quelqu'un, et qui, le voleur, quand il voit trois maisons, une maison détruite, ça c'est l'exemple qu'a donné l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Bien sûr, ce ne sont pas les mots précis, mais le sens est celui-là. La maison détruite, le voleur n'en a rien à faire. Il n'y a rien à prendre là-bas. Ça, c'est le cœur mort du kafir. Il n'a plus besoin d'aller le tenter à faire telle ou telle chose. Il a réussi avec lui. La maison du roi, avec des soldats tout autour, avec des systèmes d'alarme, avec des protections et ainsi de suite, il ne la convoite pas. Il n'y a rien pour lui. Ça, c'est le cœur du croyant qui est fort. Le diable ne peut pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il reste ? La maison de la personne modeste. La personne modeste, elle a toujours quelque chose qui est précieux chez elle. Mais elle n'a pas assez de moyens pour protéger ce bien-là et sa maison. C'est l'image de quelqu'un qui a le cœur parfois bon, parfois malade. C'est ce cœur-là que Iblis convoite. Comme le voleur. Et qu'est-ce qu'il fait ce voleur ? Il attend. Dès que la personne sort de la maison et oublie par exemple de fermer la porte ou la fenêtre, alors il s'infiltre et il prend ce qu'il convoite. Le diable convoite ton cœur. Et il veut y prendre ta foi et ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces maladies-là du cœur, elles s'infiltrent, elles s'incrustent discrètement, subtilement, sans que tu ne t'aperçoives de ce qui est en train de se passer. D'où l'importance de renouveler la foi, renouveler al-dhikr, les rappels, al-du'a, les invocations, et ainsi de suite, pour protéger justement ton cœur. Et tu dois faire un combat pour nettoyer constamment ton cœur et pour vérifier constamment ton cœur. Ainsi, prendre soin de ton cœur doit être pour toi, le croyant, la croyante, une priorité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ » Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront utiles, le jour dernier. « إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. C'est lui qui va tirer profit. Subhanallah. On te demande d'entretenir ce cœur parce que c'est lui que tu vas amener à Allah Azza wa Jal. Et si tu amènes à Allah ce cœur alors qu'il est saint, ce cœur-là va te tirer profit. Ajib. Étonnant. Comme s'il allait te rendre le bien que tu lui as fait. Tu l'as entretenu, tu l'as préservé, yawm al-qiyama, il te le rend. Par la cause de ce cœur-là, Allah Azza wa Jal va te préserver. Et le cœur saint, qu'est-ce que c'est si ce n'est le cœur qui se soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cœur qui est rempli de vénération. Ce cœur-là a des signes. Quand tu les vois, réjouis-toi. S'ils sont absents, inquiète-toi. Le premier signe du cœur saint que l'on pourrait citer, qui a été cité par le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dans son livre intitulé « Ahadith ou Islah al-Quloub » les hadiths sur la réforme des cœurs. Le premier signe que l'on pourrait citer, c'est que le cœur se détache de ce bas monde, qu'il n'accorde pas à ce bas monde la plus grande importance, et qu'il soit conscient que ce bas monde n'est qu'un passage qui disparaîtra, laissant place derrière lui au final à la réalité, comme a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, cette phrase en or: irtahalati dunya mudbira, la vie d'ici-bas s'en est allée en tournant le dos. وارتحلت الآخرة مقبلة, et la vie de l'au-delà arrive en vous faisant face. ولكل منهما بنون, et chacun des deux a des enfants. فكونوا من أبناء الآخرة, soyez donc les enfants de l'au-delà. ولا تكونوا من أبناء الدنيا, et ne soyez pas les enfants de la vie d'ici-bas. فإن اليوم عمل ولا حساب, car certes aujourd'hui, ce sont des actions que vous faites sans jugement. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, quant à demain, vous serez jugé sans pouvoir faire d'action. Le deuxième signe montrant que le cœur est sain, c'est que sa motivation première et principale soit le souhait d'obtenir la satisfaction de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et de s'écarter de tout ce qui le met en colère. Un cœur qui est saint, forcément, il est soucieux. Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Tu dois te poser la question. Tu dois te remettre en question. Tu dois te dire: est-ce qu'Allah, aujourd'hui, maintenant, est satisfait de moi? Est-ce que je plais à Allah? Est-ce que je suis loin de ce qui provoque sa colère? Subhanahu wa ta'ala. Le troisième signe montrant le cœur saint, c'est les efforts faits par la personne, le combat de son âme, pour s'écarter de tout interdit. Si tu t'efforces pour délaisser les interdits, c'est une preuve que le cœur est sain, même si c'est partiellement. Au moins, il y a une part qui prouve que le cœur recherche un bon objectif et est sain. Et Allah Azza wa Jalla a dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, et ceux qui luttent pour nous, c'est-à-dire pour Allah Azza wa Jalla, dans la voie d'Allah, qui font des sacrifices parce qu'ils préfèrent ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jalla, nous les guiderons dans nos voies. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Quatrièmement, ou le signe suivant, prendre soin de corriger ses actions. Connaître les règles de ta religion et corriger tes actions. Et de faire cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ton cœur est saint, tu vas avoir envie d'apprendre ta religion et de connaître comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, comment donner des aumônes, quelles sont les règles à savoir, à connaître, à apprendre. Ça montre que le cœur est saint. Et subhanallah, quand tu vois que des années entières passent, s'écoulent sous le nez de la personne qui jamais n'apprend sa religion, tu te dis: dans quel état doit être ce cœur? Un cœur qui a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal, qui peut-être le sait, en est conscient, sans pour autant donner ne serait-ce que une heure, une demi-heure, moins peut-être, pour l'apprentissage de ta religion, des jours entiers, des semaines entières, des mois entiers, des années entières, toujours avec les mêmes questions à poser, parce qu'il n'y a aucun apprentissage. Ya akhi, wa ya ukhti, remets-toi en question. Corrige ce cœur, ça ne va pas. Dans la dunya, tu vas jusqu'à faire des formations pour apprendre un métier, parce que tu as besoin de ta subsistance. Ton cœur en a plus besoin. On ne te demande pas de faire ce que d'autres ont fait, d'aller dans tel ou tel pays ou je ne sais. Non. Si tu ne peux pas. Aujourd'hui, alhamdoulillah, avec tous ces moyens qu'on a à notre disposition, la science est venue jusqu'à nous. Elle est venue jusqu'à devant toi. Tu peux écouter le cheikh. Tu peux écouter la traduction. Tu peux lire traduit en attendant d'apprendre l'arabe, car c'est la base indispensable. On n'a pas d'excuse. Pourquoi on n'apprend pas? Pourquoi on ne se cultive pas dans notre religion? On dit, je n'ai pas eu le temps. Tu es parti passer combien d'heures dans le magasin pour dépenser ton argent? Tu es parti passer combien de temps dans telle distraction pour dire ensuite, je n'ai pas le temps? Ce n'est pas vrai. Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, son temps était rempli. Il faisait les fatawas, il réglait les problèmes entre les gens, il était juge, il a été directeur de l'université islamique, il a été le mufti numéro un du royaume d'Arabie, il conseillait les gouverneurs, il réconciliait parfois peut-être des tribus, il priait la nuit, jeûnait le jour, il apprenait des livres entiers en faisant l'wudu, il était aveugle. Il a été aveugle à 16 ans, rahimahullah, mais son cœur n'a jamais été aveugle. Ça, on peut en être sûr. Chaque fois qu'il faisait l'wudu, il disait à un élève, viens, chaque fois que je fais l'wudu, tu viens à côté, tu récites le livre que je veux apprendre. Et comme ça, il a appris des livres entiers en faisant l'wudu, juste en écoutant. Quelqu'un lui a posé la question, cher, comment tu en es arrivé là? Les gens n'arrivent même pas à faire un tout petit peu de ce que tu fais et toute la journée est passée. Comment tu fais? Il ne voulait pas répondre. Pose pas cette question. Laisse-moi. Il a insisté. C'était un proche. Cheikh, s'il te plaît, donne-moi cette information. Dis-moi, comment tu as fait? Jusqu'à ce qu'il lui a dit, Ya waladi, oh mon fils, idha sahha al-qalb, si le cœur est sain, le corps le suit. Voilà le secret. C'est tout. Et les salafs, ça, ils l'avaient compris. Si le cœur, il est sain, si le cœur est sain, le corps va suivre. Le corps va être capable de tout surmonter. Pourquoi tu jeûnes? Qu'est-ce qui te pousse à jeûner? On te dit, je te donne 1 milliard, tu romps ton jeûne. Tu vas rompre ton jeûne? 1 milliard. Quand même. Il y a de quoi faire avec 1 milliard, hein? A'oudhu billah min hadha al-milliard al-mal'oun. Qu'Allah me protège de ce milliard maudit. Tu ne vas pas rompre ton jeûne. Pourquoi? Parce que ce jeûne, tu sais pourquoi tu le fais. Donc ça, c'est le cœur qui est sain. Taïeb. Pour cette raison, mes très chers frères, les savants de l'islam se sont intéressés au sujet du cœur, car ils ont vu la dangerosité du cœur lorsqu'il est touché par la sécheresse, lorsqu'il est dur, lorsqu'il est perverti. Ils ont été jusqu'à écrire des livres, parfois volumineux et d'autres fois résumés. Et parmi les livres les plus bénéfiques dans le domaine du traitement du cœur, Adda ou Addawa, de l'immense savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, La maladie et le remède. Ils l'ont traduit péché et guérison. La traduction, elle est correcte. Et donc la maladie et le remède qui fait suite à une question posée par une personne inquiète et soucieuse, car elle ne ressentait pas son cœur. Et elle disait à l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Que disent les savants de l'islam au sujet d'une personne qui commet un péché et qui n'arrive pas à s'en débarrasser? Cette personne a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait sans pour autant que cela ne porte ses fruits. Qu'Allah fasse miséricorde à quelqu'un qui aide un musulman. Interrogateur qui dit ça. Quand Ibn al-Qayyim rahimahullah a entendu cette question, il aurait pu lui répondre. Les savants disent que, mais en vérité, il a entendu une personne lui demander au secours. Dans mon cœur, ça ne va pas. Je n'arrive plus à revenir à mon Seigneur. Je ne me sens pas bien dans mon lien avec Allah. Au secours. Et quelqu'un qui te crie au secours comme ça, ce n'est pas une parole qu'il faut lui donner. Mais c'est un développement. Alors, il a écrit un livre tout entier. Ad-da'u ad-dawa. La maladie et le remède. C'est-à-dire la maladie du cœur et son remède. Et il a un deuxième titre aussi. Al-jawab al-kafi. Liman sa'ala anid dawa al-shafi. La réponse suffisante dirigée à celui qui a interrogé au sujet du remède guérisseur. Et dedans, il a traité tout le sujet du cœur. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimallah est très extrêmement compétent dans le domaine du cœur et du soignement du cœur. Mais comme a dit le Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah, on ne dit pas comme certains disent Ibn al-Qayyim tabib al-qulub, c'est le médecin des cœurs. Cheikh Saleh al-Fawzan a dit là tabib al-qulub rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le médecin des cœurs c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wasallam. Et parmi les écrits qu'on retrouve dans ce sujet-là, il y a celui de l'imam Ibn Rajab rahimahullah intitulé Dhammu Qaswati al-Qalb, le blâme de la dureté du cœur. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala est l'élève de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim est l'imam, est l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Quel grand-père, quel père et quel fils. Masha'Allah. Des montagnes de la science. Qui est l'imam Ibn Rajab alayhi rahmatullah? L'imam Ibn Rajab, de manière résumée, je vais vous donner son nom, sa date de naissance, son décès, la ville où il est né et où il a vécu, rahimahullahu ta'ala. L'imam Ibn Rajab, c'est Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Sulami al-Dimashqi al-Baghdadi. C'est Abdurrahman, fils de Ahmad, fils de Rajab, qui vient de Damas, en Syrie, puis qui s'est installé à Bagdad, en Irak. Sa kunya, c'est Abu al-Faraj. Et on le connaît plus communément sous le nom de Ibn Rajab. Rajab, c'est son grand-père. Son père, c'est Ahmed. Il est né, rahimahullah ta'ala, en l'an 736, de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est décédé en l'an 795 à 59 ans. Rahimahullah ta'ala. Ibn Rajab a eu plusieurs professeurs, particulièrement son cheikh l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui lui a transmis les sciences qu'il a puisées de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Rajab était extrêmement aimé par les gens. Il était connu pour sa ibada, pour sa piété. Il observait le silence pendant de très longs moments. Ça revient à ce que je vous ai dit en introduction. Surveiller sa langue rahimahullah ta'ala. Il conseillait les gens et si on voulait lui confier les responsabilités d'être juge, il se cachait, ou il prenait la fuite, ou il disparaissait, de peur des responsabilités devant Allah, subhanahu wa ta'ala. qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a écrit ce résumé intitulé Dhammu Qaswatil Qalb, le blâme de la dureté du cœur. Avec ce titre, on comprend quelque chose. On comprend plusieurs choses. Premièrement, Qaswatul Qalb Shay'un Madhmoum. La dureté du cœur, c'est quelque chose qui est blâmé. Allah déteste la dureté du cœur. Allah n'aime pas les cœurs qui sont secs, durs, rudes. Chez Allah, ce n'est pas aimé. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela sous-entend? Que les cœurs doux, vivants, sont aimés d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. On comprend aussi qu'il est possible que les cœurs soient durs, touchés par Al-Qaswa. Qu'est-ce que c'est alors Al-Qaswa? Quand on dit Qaswatul Qalb, la dureté du cœur. Al-Qalb, premièrement, pourquoi il a été appelé en arabe le cœur Al-Qalb? Parce que le mot Qalbun, dans la langue arabe, vient du Taqallub. Taqallub, c'est le retournement. Ce cœur a été appelé qalb parce qu'il se retourne. C'est-à-dire qu'il change de situation. Parfois, il est proche d'Allah, parfois il s'en éloigne. Parfois il est heureux, parfois il est triste. Parfois il craint Allah, parfois non. Ces situations se changent. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ou disait dans son invocation, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui retournes les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, maintiens mon cœur dans ta religion. Donc les cœurs se retournent. Il s'agit donc de quelque chose qui ne va pas tout le temps rester stable, mais qui peut être bon parfois, mauvais d'autres fois, bien guidé tantôt, égaré tantôt. Et quand il est égaré, il est touché par ce qu'on appelle Al-Qaswa. Et qu'est-ce que c'est alors Al-Qaswa? Al-Qaswa, qu'on traduit approximativement par la dureté, a été expliqué par Ibn Manzur, un grand linguiste de la Sunna, spécialiste dans la langue arabe, qui a un livre, un grand dictionnaire de référence, Lisan al-Arab, la langue des Arabes. Il a expliqué ce qu'est la dureté du cœur. Il a dit Zahabullin min al-qalb. C'est la disparition de la douceur. La disparition de la douceur de ce cœur. Lorsque la douceur disparaît de ce cœur et que de ce cœur-là également disparaît al-khushu'. L'humilité. Ce cœur n'est pas plein d'humilité envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il n'est plus attentif à l'au-delà, à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ce cœur-là, on peut dire qu'il est touché par la qaswa. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous en préserve. Et ça, c'est grave, comme vous allez le voir par la suite, incha'Allah ta'ala. Parce que ce cœur-là, mes frères, lorsqu'il est touché par la qaswa, par cette dureté, il devient sec. Il n'absorbe plus la révélation d'Allah, qui pour lui est comparable à la pluie servant à faire vivre la terre. Il ne l'accepte plus. Il est sec. Quand on lui parle d'Allah, ça ne lui fait plus rien. Quand on lui parle de l'au-delà, il ne ressent rien. Quand il écoute le Coran, il ne ressent rien. Quand il est en prière, son souci c'est de sortir de cette prière. Quand il jeûne le mois de Ramadan, son souci premier, à quand la prière du Maghrib pour rompre le jeûne? Il est en prison. Il est enfermé. il ne se sent pas bien entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime pas entendre le rappel. Il n'aime pas qu'on lui parle des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses interdits. De la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses enseignements. Pourquoi ? Fihi al-qaswa. Car il y a la dureté en lui. Il y a la sécheresse. Il n'absorbe plus. Il est bouché. Il est fermé. Il est condamné. Wallahi, c'est un des pires châtiments fi dunya d'avoir qaswatul qalb. Comme les salafs l'ont dit, comme on va le voir dans l'étude de cet écrit, Insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Pour cette fois, cette séance-là, on va s'arrêter ici.
Non. J'ai juste une question. Est-ce que des fois, quand on est touché par la fainéantise de rendre, par exemple, un service à quelqu'un, c'est peut-être un signe de la dureté du cœur ?
On y viendra, Inch'Allah. Jazakallah khair. On va s'arrêter ici, Insha'Allahu ta'ala, et on reprend à 13h45, pile. Les gens qui nous écoutent, connectez-vous directement, ne venez pas 20 minutes avant. C'est vraiment dommage de rater un tel sujet. بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك